Et bien de retour avec notre chroniqueuse développement durable Corinne Baranger. Bonjour.
Bonjour Xavier.
Alors aujourd'hui, on va parler du concours C40. Alors tout d'abord, peut-être un petit récapitulatif. On a déjà parlé de ce groupe C40. Tu veux, Corinne, nous rappeler ce que c'est?
C'est un groupe donc à l'initiative de Monsieur Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui a créé un groupe regroupant donc les principales villes du monde. Et le but de ce groupe, c'est d'encourager les initiatives, je dirais, qui vont amener les villes à gérer leur communauté durablement.
Voilà, alors
simplement en cours.
C'est ça. Donc ils organisent un concours C40 et puis alors
tous les ans.
Et je crois savoir que Toronto n'a pas gagné dans sa catégorie développement économique et financier. Alors Corinne, qui a gagné?
Voilà, eh bien non, Toronto malheureusement n'a pas gagné. Concourait contre Johannesburg et Londres et c'est Johannesburg qui a gagné. Pour remporter un prix grâce donc à un outil financier qui est la création d'obligations vertes. Ces titres sont monnayés sur la bourse à Johannesburg et ces titres servent en fait à financer des projets environnementaux bien sûr. Donc parmi ces projets, on peut noter donc la réduction du gaspillage de l'eau. Donc tous les outils, toutes les technologies qui vont pouvoir aider à cette réduction de gaspillage. Traitement la source des ordures, dans le tri, de voir aussi ce que l'on peut faire de ces ordures pour les réutiliser. La récupération et la réutilisation de l'eau. Donc on parle de récupération, les eaux de pluie en particulier, et puis la réutilisation, c'est comment est-ce qu'on réutilise l'eau que l'on utilise tous les jours. Et puis sur le trafic, sur les embouteillages, et surtout en mettant une priorité au transport public. Un projet en particulier, c'est la conservation de l'énergie dans les quartiers défavorisés, en installant des chauffe-eau solaires, donc qui ne consomment pas d'énergie du réseau, et des panneaux solaires sur les toits, et en améliorant l'isolation des bâtiments. C'est ce qu'on a fait aussi dans les tours à Toronto, il y a un projet par rapport à ça. Donc c'est vraiment un ensemble de choses qui font que cela rend la ville plus durable, mais l'outil intéressant, c'est le financement dans ce projet-là. C'est que on a créé un titre auquel tout le monde peut contribuer, puisqu'on peut acheter ces titres en bourse et financer des projets durables.
Très bien. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des villes canadiennes parmi les gagnants pour ce concours cette année?
Oui, il y en a une. C'est Vancouver. Vancouver, alors qui a reçu le prix pour la mesure du carbone et la planification. En fait, ce que l'on veut récompenser avec ce prix, c'est comment l'effet de la mesure, quand on mesure en fait l'émission de carbone par la ville, comment est-ce que cela peut avoir une influence sur les stratégies vertes de la ville? Donc, en l'occurrence, avec ces mesures, Vancouver a mis en place ce qu'on appelle le Greenest City Action Plan, et avec des objectifs surtout précis. Les objectifs précis, c'est que à partir de 2020, les bâtiments devront être neutres en carbone, c'est-à-dire ne pas émettre plus de carbone qu'ils n'en consomment. Ensuite, réduire la consommation d'eau de 33% par rapport à 2006. Et ils étaient déjà à 16% en 2014. Ils font du très beau travail pour tout ça. Et ensuite, donc, ils sont à plus de 50%, mais déjà ils ont atteint leurs objectifs en 2014. 50% des trajets pour aller au travail, pour se déplacer en ville, s'effectuent à pied, en vélo ou en transport public.
Donc... Oui, le climat peut-être de Vancouver, est-ce que, bon, sans trouver des excuses pour Toronto, j'imagine que Vancouver se débrouille mieux vis-à-vis du transport?
Oui, mais il y a aussi une volonté.
Oui,
je pense que la volonté politique fait une grande différence. Et aussi, donc, 50% du volume des ordures dirigées vers les décharges et incinérateurs, c'est-à-dire qu'on veut réduire de 50% ce volume. C'est-à-dire qu'on réutilise, on recycle. Il y a plein de choses à faire justement pour éviter. On parle beaucoup en ce moment, on arrive à la période de Noël et on parle beaucoup de nourriture qui est gaspillée. On évalue à peu près, j'entendais pour le Canada, on évalue à peu près à 40% la nourriture gaspillée que l'on jette à la poubelle et qui n'est pas forcément envoyée pour du compost. Donc là, il y a vraiment un gros travail. Et ça, je pense que tout un chacun individuellement a quelque chose à faire par rapport à ça. Et en plus, ça fera baisser les impôts à long terme. Puisque et si on envoie moins d'ordures à détruire, à la décharge ou à incinérer, automatiquement, ça va réduire les coûts.
On a vu avec la COP 21, Corinne, que les objectifs, c'est important, évidemment, si on veut atteindre et vraiment aborder cette question climatique. Est-ce qu'il y a des villes dans le monde qui ont atteint leurs objectifs en termes de développement durable?
Alors, il y avait plusieurs villes qui étaient nommées dans cette catégorie de communautés durables. Alors, en fait, celle qui a obtenu le prix, c'est Stockholm, avec le Royal Seaport, en fait, qui est un district de Stockholm, qui sert un peu de laboratoire pour mettre en œuvre un certain nombre de projets qui décrivent, en fait, les villes du futur, en quelque sorte. Donc, alors, ce qui est très intéressant dans la mise en œuvre de ce laboratoire, c'est que on remet, et ça je l'ai déjà dit dans le passé, on remet l'homme au centre de la ville. C'est-à-dire que ce n'est plus la technologie, ce n'est plus la voiture, mais on remet l'humain. Et ça donne une orientation très différente. C'est-à-dire que les rues, par exemple, j'ai vu certains projets où on n'a plus de trottoirs dans les centres-villes, par exemple. Hein, on ne sépare plus la circulation des véhicules et c'est juste une gestion et j'ai un respect des uns et des autres. Il y a un certain nombre de projets qui sont menés dans ce sens-là et ça fonctionne. Donc, l'autre chose que l'on encourage aussi dans ces futures générations de villes, c'est la biodiversité. C'est vraiment un thème qui est repris par beaucoup de médias, le fait que l'on est en train de perdre de la biodiversité avec toutes ces nouvelles, avec de nombreuses nouvelles technologies qui visent par exemple à réduire le nombre de variétés de fruits, de légumes, ou même au niveau des animaux, de détruire, quand on détruit la forêt amazonienne, on détruit la biodiversité, ça c'est clair que l'on réduit la biodiversité. Donc ces nouveaux quartiers vont dans le respect de tout cela. Respect de l'homme, je veux dire, ça c'est déjà très très important. Ce dont on se rend compte, c'est que on a une augmentation aussi. Donc il y a vraiment un basculement des emplois aussi. Plutôt que d'investir, je dirais, dans les technologies, dans la recherche sur les énergies fossiles, eh bien on va investir sur les énergies vertes. Et ça c'est un peu ce qui est ressorti de la COP 21, si c'est un des éléments, c'est que l'on sorte complètement, signe un peu la fin de l'utilisation des énergies fossiles.
Notamment des hydrocarbures et du charbon. Hein.
Exactement. L'on bâtisse des entités, que ce soit à niveau d'un quartier, au niveau d'une ville, de bâtir des structures qui soient à énergie positive. C'est-à-dire que là, on revient à la dimension locale. C'est-à-dire qu'on va plus chercher de l'énergie à l'autre bout de la planète. On revient localement, on peut se fournir en énergie. Il y a des choses qui existent. Alors bien sûr, on parle du vent, on parle du solaire, on parle de la géothermie. Il y a plein de sources qui existent, suivant le contexte de la localité. Mais ça, c'est quelque chose à exploiter. Mais pour ça, il faut que la recherche soit mise là-dessus, que l'on investisse là-dedans, plutôt que d'investir dans des énergies polluantes ou, dans la chimie qui peut être polluante. On peut faire aussi une chimie propre. Il y a plein d'expériences qui sont faites dans ce domaine-là. Et je pense que là, c'est vraiment... Là, on voit vraiment un avenir positif. Enfin, moi, je suis vraiment positive. Je pense que et c'est à partir des individuels et des municipalités. Il faut que les municipalités prennent vraiment ces objectifs et des objectifs concrets sur la réduction des gaz à effet de serre et sur l'investissement sur des projets positifs. Ça ne veut pas dire que votre niveau de vie va diminuer, c'est juste qu'on va changer pour un environnement plus propre. Quand on voit actuellement ce qui se passe en Chine, on se dit, est-ce que l'on veut ça pour notre ville? Est-ce que l'on veut aller là? Non, je pense qu'on veut tous boire une eau propre, on veut respirer de l'air propre, aller se promener dans un parc qui est vert, avoir de la nature, voir des animaux. Je pense que tout un chacun veut ce genre de choses. Et je pense que en fixant des objectifs et en mettant les ressources qu'il faut pour arriver à ces objectifs, on peut y arriver.
Et voilà une note optimiste de notre chroniqueuse développement durable Corinne Barranger. Merci pour cette chronique, Corinne.
Merci Xavier.
Et quant à nous, bien entendu, nous continuons sur les ondes de Choc FM 105.1.